Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 8 avril 2021. Il est 18h30 pour ceux et celles qui nous écoutent en direct sur les ondes de choc.ca. De retour après 4 semaines, on a manqué une émission il y a 2 semaines, on a pris un petit congé. Donc, re-bienvenue à tout le monde, on avait bien hâte de refaire une émission. Donc, Mathieu au micro, en compagnie de Simon.
Salut Mathieu.
Bonsoir Simon. Et Marie-Ève qui est à la console pour l'instant, qui va nous revenir en micro.
Elle nous fait des babayes.
Un peu plus tard, ben oui. Donc, ben voilà, émission... Donc, qui existe depuis à peu près 2 ans, là, on devrait fêter ça éventuellement, là.
C'est juste notre 45e.
Hein? Oh, OK, on attend la 50e,
hein? Oui, oui,
oui. OK, bon plan, donc à peu près au mois de mai-juin dans ce coin-là. Donc, merci Simon pour les précisions. C'est notre statisticien maison.
Simon Oud.
Simon Oud. Oh là là. Donc, pour nous rejoindre en tout temps, ben, notre page d'émission sur le site de choc.ca pour les émissions passées et celles que vous allez entendre aujourd'hui, évidemment. Sinon, notre site apatridesanonymes.info et sinon pour le courriel c'est apatridesanonymes@resist.ca. Donc voilà, au menu de l'émission aujourd'hui, on va avoir de la bonne musique, évidemment de la très bonne musique, des nouveautés. On va avoir aussi quelques petites brèves, un agenda antiraciste avec Simon basé sur des suggestions de lecture.
Ouais, principalement.
Sinon on va parler d'Afrique, ça fait longtemps, les actualités sur l'Afrique, les actualités sur l'Europe, ça, on le fait plus souvent, mais il y a plein de choses qui se passent avec notre Marie, notre porte-parole officielle. Son micro n'était pas ouvert.
Ça avait l'air drôle.
J'ai dit oui, porte-parole de l'Europe, effectivement. Oui. On va rester en Europe blanche.
Secrétaire général.
Oui, 6 heures en avance sur nous, évidemment, donc en décalage positif. Et sinon, moi, je vais vous parler, entre autres, du racisme anti-asiatique, parler aussi d'un réfugié syrien qui voulait se présenter aux élections en Allemagne, mais qui finalement a changé d'idée. Je vais vous conter pourquoi. Donc, voilà pour l'intro de cette émission. On va écouter quelques notes de musique. Je vous parle un peu du budget du Québec et ensuite, Simon nous parle d'Afrique pour son premier bloc. Yes. Donc, dans les actualités récentes, le budget du Québec déposé le 25 mars dernier par le gouvernement de la CAQ. Quelques commentaires de l'IRIS qui font une analyse à chaque fois plus détaillée des différentes annonces, mesures, coupures, investissements. Côté immigration, c'est très, très faible. Il y a de l'argent pour soutenir la formation et la requalification de la main-d'œuvre et l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail. Donc, on n'est pas surpris, c'est des mesures sur l'emploi, surtout.
Économique.
Économique, exactement. On veut accroître la part de l'immigration temporaire en soutien à la relance économique, avec comme cible une croissance de 10% des travailleurs et travailleuses temporaires. Donc, on y va encore dans la précarité à ce niveau-là. Donc, on note dans le commentaire de l'IRIS que les personnes immigrantes sont comme très souvent le cas réduites à leur fonction économique, sans se soucier notamment de trouver des moyens de mieux intégrer celles qui sont déjà installées au pays. Entre autres, on fait venir des jeunes à titre temporaire de l'extérieur. Donc, les mesures sont surtout sur la francisation, l'arrimage de l'offre d'immigration aux besoins des entreprises québécoises, ainsi que la régionalisation de l'immigration pour des raisons économiques. Donc, la main-d'œuvre immigrante étant plutôt perçue comme devant s'adapter aux besoins des employeurs et non l'inverse. D'ailleurs, il n'y a à peu près rien sur les fameuses reconnaissances des diplômes, évidemment. Fait cocasse qui est noté après les bourdes de Himon Rollin-Barrette dans le dossier de la réforme du PEC. Le gouvernement prévoit 3 millions pour favoriser l'attraction et la rétention des étudiants et étudiantes étrangers et étrangères.
Ils sont déjà un peu... Ils ont un goût amer, quand même, pour la plupart d'entre eux, d'entre elles. Je sais
oui.
pas si ça va marcher. Là.
Oui, puis ils sont rendus dans leur démarche, c'est l'autre question, avec le nouveau PEC, entre autres. Et sinon, au niveau du racisme, le gouvernement caquis est parvenu à faire pire que s'obstiner à ne pas reconnaître l'existence du racisme systémique en ne prévoyant aucun argent neuf pour la lutte contre le racisme cette année, malgré un plan d'action et un ministre responsable. Donc, voilà. C'est beaucoup de contenu, hein?
Je pense qu'ils vont piger dans le budget de l'environnement.
Oui, peut-être.
Je pense que c'est ça qu'ils vont faire.
C'est le même ministre.
C'est pour ça que je dis ça. C'est un portefeuille, genre, divisé en deux.
Ah,
un compte conjoint.
Je ne penserais pas, là, mais c'est une bonne blague, Marie-Ève. Donc, rien d'autre à dire de plus sur ce budget qui a déçu à peu près tout le monde aussi au niveau social, communautaire, syndical, les programmes sociaux, les services publics, à peu près rien. Donc, voilà. Fait qu'une belle relance de béton dans des secteurs lourds industriels et avec des baisses d'impôts pour les entreprises.
Ouais, pour sortir un peu peut-être de nos thématiques habituelles, je pense qu'il n'y a rien pour la lutte contre les violences sexuelles non plus.
Malgré pas grand-chose.
On est dans un climat qui favoriserait peut-être ce genre de mesures-là. Mais...
logement social, on peut nommer le communautaire, etc. Donc, ben voilà, mais écoute Simon, on change complètement de sujet. On s'en va en Afrique pour un premier bloc. L'autre sera plus tard dans l'émission. Tu vas nous parler de la Centrafrique, la République centrafricaine.
Ouais, un premier bloc de 4-5 minutes seulement sur la République centrafricaine. Donc, je vais vous parler de trois crises, en fait. République centrafricaine et dans l'autre bloc de, voyons, Mozambique et Gambie. C'est des crises politiques, c'est pas des catastrophes environnementales, là, dans les trois cas. La seule situation qui a une certaine couverture médiatique, je trouve, récemment, c'est le Tigré en Éthiopie. On en a beaucoup plus parlé que les trois crises dont je vais vous parler. Le président a finalement décidé de retirer ses troupes du Tigré. On vous en parlera peut-être avec une analyse plus complète, avec un peu plus de recul lors d'une prochaine émission. Donc, Gambie, Mozambique, tantôt. Je commence avec Centrafrique. Le pays est instable, ben, comme beaucoup sur le continent, mais celui-ci particulièrement depuis 2013. Ça s'est exacerbé depuis 2017 jusqu'à la signature d'un accord de paix avec 14, non moins que 14 groupes rebelles en 2019. Il y a eu une élection présidentielle en décembre 2020 qui a reporté au pouvoir Faustin Archange Touadéra. Avec un nom comme ça, c'est très vertueux.
C'est un élu.
Un illuminé plutôt, oui.
Un illuminé. En tout cas, bref, son reportage au pouvoir a été violemment contesté par les rebelles, donc l'accord de paix n'aura pas finalement duré très longtemps. Reprise des violences, les groupes rebelles ont repris environ 80% du territoire. Une deuxième élection a été organisée en mars dernier, donc c'est tout récent, pour tenir à peu près autant de premier tour que de deuxième tour, donc j'imagine que ça devait être un petit peu compliqué. Du point de vue strictement migratoire, ça donne les chiffres suivants. 650 000 réfugiés centrafricains à l'extérieur du pays. Principalement au Cameroun, en République démocratique du Congo et au Tchad. 750 000 déplacés internes à l'intérieur de la République centrafricaine, donc. Ça nous donne un total de 1 400 000 déplacés, des chiffres qui sont toujours en progression. Donc, on pourrait à court moyen terme atteindre plus de 2 millions de personnes déplacées en Centrafrique. Et le pays compte 4,7 millions d'habitants, donc c'est à peu près le tiers de la population qui est déplacée à l'heure actuelle.
Au cours des dernières années, j'imagine, ça a bougé, c'est ça?
Oui, ça, on parle de la dernière année, dans les derniers mois. Là.
Dans les derniers mois seulement?
Okay. Non, ben en fait, moi, je parle de la situation actuelle. C'est le nombre de personnes qui ne sont plus dans leur lieu de résidence, là, si on veut. Donc, oui, ça peut inclure des crises antérieures.
Antérieures, OK.
Mais ce sont des personnes qui ne sont pas revenues.
C'est bon.
Au-delà des déplacés, des problèmes d'approvisionnement, parce que la route principale du pays est constamment attaquée, inutilisable, ce qui provoque une rareté des biens essentiels, une inflation, donc ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement déplacées ou réfugiées ont beaucoup de difficultés à subvenir à leurs besoins de base. Beaucoup de personnes ont bougé vers la région frontalière entre la Centrafrique et le Congo, région considérée très dangereuse. Donc actuellement, il y a des opérations humanitaires pour essayer de déplacer les gens plus loin à l'intérieur du territoire congolais pour les éloigner de la violence. On cherche à mettre sur pied des camps de réfugiés, entre autres dans les provinces congolaises de Lubangui Nord et du Bas-Wélé, pour ceux et celles qui connaissent la région. On part de loin, il n'y a pas vraiment d'infrastructure d'accueil actuellement dans ce coin-là. C'est une région très humide, souvent inondée et marécageuse. C'est très propice à la propagation de toutes sortes de maladies. C'est pas facile d'accès pour acheminer nourriture, eau potable, médicaments et autres. Il y a actuellement un risque élevé d'épidémie de rougeole avec campagne de vaccination d'urgence qui est en train de se mettre en place. Donc, question d'en rajouter une couche. Donc, ce que souhaitent beaucoup d'organisations là-bas, c'est réinstaller plein de réfugiés, non pas dans des camps énormes comme on voit un peu partout dans le monde, mais vers une multitude de petits et moyens camps proches des villages et des petites villes au Congo pour pouvoir profiter des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc, on regarde les capacités dans les écoles pour les enfants, des terres à cultiver pour les parents, des bâtiments qui seraient possibles à transformer. Il semble que plusieurs communautés congolaises répondent très positivement. Ils semblent avoir une bonne entente. Peut-être qu'il y a beaucoup de familles de part et d'autre de la frontière. Je ne sais pas c'est quoi la raison. Mais il semble qu'il y a une réponse très, très positive à ce niveau-là. Ça se fait comme ça maintenant parce qu'il y a urgence, oui, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, mais ça reste peut-être un modèle à suivre aussi de plus intégrer d'une manière plus micro et impliquer les communautés locales aussi dans l'accueil de réfugiés. Donc, Il y a sûrement des post-mortems qui seront faits éventuellement pour voir si c'est une solution qui peut être applicable à d'autres endroits. Le Haut Commissariat pour les réfugiés et plusieurs organisations qui gravitent autour ont demandé 165 millions de dollars, donc c'est pas une fortune, pour assurer la base des besoins à court terme. Entre autres pour la violence au, pour la lutte pardon aux violences sexuelles, pour l'enregistrement des déplacés, pour des abris, la santé, la nutrition, l'hygiène, les trucs habituels. Pour le phénomène récurrent aussi des enfants soldats depuis des années dans la région, c'est vraiment un frein au au développement, au à la résolution
des conflits,
des différentes crises, des différents conflits. Ça fait partie des priorités pour beaucoup de monde en République centrafricaine. Ce serait un des pays les plus gangrenés par ce phénomène-là. Mm-hmm. Pendant que le Haut-Commissariat parle de besoins très, très terrains, ben il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est une autre branche de l'ONU, finalement, qui a décidé d'envoyer des milliers de casques bleus supplémentaires, ce qui donne pas toujours des résultats très heureux. En même temps, je sais pas trop comment juger. C'est un conflit. Je sais même pas comment qualifier. C'est pas un conflit larvé. C'est des dizaines de factions qui font des alliances, qui s'entretuent, qui se trahissent, puis qui sont contre le gouvernement en même temps. Bref, si on se fout au texte de la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité, on parle davantage de sécurité là-dedans, de sécurité nationale, du conflit politique et de la protection des élections plus que de la protection des civils et des réfugiés en tant que tels. Les casques bleus sont accompagnés de militaires rwandais, de paramilitaires russes venus soutenir le gouvernement centrafricain et de l'armée française. Donc, un magnifique cocktail.
Ça fait partie du conflit, hein, c'est sûr, c'est complexe.
Oui, puis peut-être on se doute, ben c'est un pays très riche en minéraux, en diamants, en métaux précieux. Les élections, le deuxième premier tour fait une deuxième fois. Ça a eu lieu le 14 mars et quatre semaines plus tard. Donc aujourd'hui, on attend encore une bonne partie des résultats. On les attend pour le mois de mai. On verra ce qui se passera, mais c'est sûr que l'armée ou certains groupes rebelles ou peut-être les Russes, les Rwandais, les Français seront pas satisfaits des résultats non plus. On le sait pas.
Et notre ami Faustin Archange non plus, peut-être.
Ah, j'y ai pas tendu de micro.
On devrait l'appeler la semaine prochaine.
Il a pas répondu à notre demande d'entrée.
On n'est pas RFI. Donc, merci Simon. Quelques notes de musique. Tu nous reviens tantôt pour un bloc 2 Afrique dans la deuxième partie de l'émission.
Et ouais,
quelques
notes Mozambique de musique. Et Zambie.
Oui. Donc, Marie-Ève arrive dans quelques instants. Toujours aux apatrides de Zanonym. Encore merci à Simon pour son micro, sa chronique sur la République centrafricaine et les réfugiés. C'est bon. Donc, Marie-Ève, tu vas nous parler en deux temps, toi aussi, d'Europe. Et tu vas commencer, si je ne me trompe pas, avec la France.
Oui, avec la France, avec en fait deux bonnes nouvelles. Je me disais qu'on avait besoin un peu. La semaine dernière, plus précisément, le 31 mars, la Cour de cassation a enfin relaxé Cédric Héroux, vous savez, cet agriculteur de la vallée de la Roya qui avait offert gîte et couvert à plusieurs personnes migrantes qui avaient traversé la frontière depuis l'Italie. Cette décision-là marque l'aboutissement d'une lutte de 5 ans qui avait commencé, si vous vous rappelez, en 2017 avec au départ une condamnation à une amende qui avait été portée en appel, puis donc en appel l'amende s'était transformée en 4 mois de prison. Cette longue procédure-là qu'on pourrait qualifier d'acharnement judiciaire a été jalonnée de 3 procès, 11 gardes à vue, 5 perquisitions et une saisie du Conseil constitutionnel qui avait fini par consacrer là en 2018 le principe de fraternité qu'on appelle. Donc voilà, c'est la première bonne nouvelle quand même.
Et en lien avec le délit de solidarité, évidemment.
Voilà.
Qui est l'envers, là. Exactement.
Oui, Simon.
Est-ce qu'on sait si c'est final ou il y a encore des chances que...
Non, non, là, c'est final. Il devrait
à moins
plus...
qu'il se fasse réarrêter pour d'autres choses, c'est
oui,
ça?
Oui, ouais. Oui, mais là, tu sais, il n'y a plus rien qui peut être porté en appel de la part de...
De l'État,
final,
là.
Final, là.
Ouais, ouais, ouais.
L'autre bonne nouvelle qui était tombée, genre, l'avant-veille, c'est que pour la première fois à Calais, il y a une juge qui a estimé que l'évacuation d'un campement où vivent environ 200 personnes migrantes érythréennes, que cette évacuation n'était pas justifiée. C'est la mairie qui avait déposé une requête pour l'autoriser à solliciter l'aide de la police pour évacuer le terrain appelé BMX. La ville considérait que les migrants campaient dans des conditions précaires, inadaptées, dangereuses, puis signalait aussi la présence de passeurs, des altercations régulières ou encore des risques d'accident à cause de la proximité d'une route nationale. Eh bien, la juge a rétorqué que le camp est composé de tentes en bon état, espacées, installées de manière ordonnée, c'est une citation,
ouais.
Et que la nourriture est entreposée en faible quantité, rangée et stockée sous une barge sans présence de vermine. Quant à l'aspect sécuritaire, la juge a souligné que la mairie avait apporté aucun élément précis et circonstancié, par exemple, comme des procès-verbaux d'intervention de la police ou des plaintes du voisinage. C'était quand même la cinquième fois depuis le mois d'août 2020 que la mairie déposait une requête de ce genre-là. Et selon Margot Siffre, qui est bénévole juriste à l'association La Cabane, ce qui a changé par rapport aux autres fois, ben c'est la juge.
Oui, hein, c'est pas la même. Hein?
Contrairement à son prédécesseur, elle a demandé à la mairie de fournir la preuve de ce qui était avancé, ce qui n'était pas le cas avant.
Ah, c'est bon.
C'est
intéressant une bonne
base, hein? Comme façon de faire marcher la justice, oui. Le verdict a également mis plusieurs jours à être rendu, comparativement à peine quelques heures en temps normal. Je cite Margot Siffre encore une fois, la nouvelle juge a pris le temps d'étudier la situation plutôt que de se contenter d'un copier-coller d'une précédente décision.
Eh oui.
Là, ben, reste à savoir si cette décision-là peut faire jurisprudence ou en tout cas influer sur les évacuations de campements. Parce que même si la mairie va devoir maintenant monter de vrais dossiers argumentés lorsqu'il s'agit de campements établis comme celui du BMX, ben, pour les micro-campements, ceux qui sont le plus régulièrement expulsés, ben la base légale est différente. Entre autres, c'est pas la mairie, mais le procureur qui intervient. Puis selon Margot Siffre, il y a donc peu de chances là, qu'il y ait un changement significatif dans leur cas. Et pour finir... on s'en va en France toujours.
On reste en France.
On reste en France, oui, où plusieurs associations, dont la CIMAD, ont assigné en justice, écoutez-moi bien, 5 préfectures pour mettre fin à la pratique dite de dématérialisation des démarches administratives des personnes migrantes. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est que les personnes qui demandent ou qui renouvellent un titre de séjour sont obligées, dans plusieurs départements, de prendre un rendez-vous en ligne. Faut dire que la dématérialisation des démarches administratives fait partie intégrante de la stratégie du ministère de l'Intérieur depuis décembre 2019, mais on a vu là, une nette augmentation depuis le printemps. Avec le confinement, bon, les services publics aux immigrants ont fermé.
Mm-hmm.
Mais pourtant, en 2019, le Conseil d'État avait rendu une décision selon laquelle le recours à la voie électronique ne pouvait pas être imposé. Puis, très récemment, le 18 février, le tribunal administratif de Rouen est même allé plus loin en jugeant que, obligation ou non, la dématérialisation des démarches liées au droit de séjour est juste illégale puisque les textes de loi excluent ces démarches-là du champ des procédures dématérialisables. Mais malgré ça, cette décision-là, les autorités persistent. Le ministre de l'Intérieur a même publié le 24 mars dernier un décret qui impose la dématérialisation de plusieurs autres types de demandes de titre de séjour. Puis ben pendant ce temps-là, évidemment là on comprend que déposer un dossier, prendre rendez-vous, renouveler un titre de séjour, c'est devenu un parcours du combattant. Et parce que le système fonctionne pas, il est toujours saturé.
Les rendez-vous sont pas donnés.
Les rendez-vous sont pas donnés, même après les courriels, des mails, tout ça, les gens se font renvoyer encore au site. Il y a aucune alternative qui est proposée. Et bref, ça fait c'est une machine à créer des sans-papiers en fait.
Il y a même des gens qui ont déjà un titre de séjour qui peuvent pas le renouveler. Puis ils devraient, c'est juste une procédure de base.
Oui,
simple, puis là, ils se retrouvent sans statut, même
c'est
si c'était juste une, qu'on appelle ça une formalité.
Une formalité, oui.
Voilà.
Donc, à suivre.
La dématérialisation.
Dématérialisation des démarches, oui. Évidemment, il y a plusieurs manifestations qui ont eu lieu là, depuis le début de l'année.
Pour contester ça, oui.
Pour contester, ouais.
Donc, ça continue, puis il
ouais.
y a des victoires en cours aussi.
Ouais.
On va passer en musique avec donc une artiste installée à Montréal qui est Oji Kri, qui s'appelle Arachnid. Son album Dreamweaver, sorti en février 2020, donc à peu près un peu plus qu'un an sur Musique Nomade. Et on me souligne dans mes notes que son animal totem est l'araignée. elle a reçu le prix de l'autrice compositrice autochtone de la Soka en 2019. C'est assez relax, mais c'est assez intéressant comme musique.
Ouais.
Et la pièce s'appelle America.
Through the traffic,
super fast,
zoom. Yeah, watching panic. I need the bread, I need the Benny. Stacking cheese to the moon. Wallace and Gromit,
yeah.
They really thought we lost. Forgot that we helped them walk. Couldn't really kill us, couldn't subdue us. Gonna need Dagger Pox.
L'artiste Arachnid de la pièce America. J'ai entendu dire qu'elle était sur la nouvelle compagnie disque que vient de créer Samian, mais à vérifier dans les prochaines semaines. Donc, je vais poursuivre avec une brève sur une drôle de nouvelle, qui est toujours en Europe. C'est pour ça que je l'ai mis entre les deux blocs Europe de Marie-Ève.
Drôle, mais pas drôle.
Particulière. Le titre, c'est un réfugié syrien retire sa candidature au Bundestag en Allemagne en raison d'attaques racistes. Le jeune homme de 31 ans espérait devenir la voix de tous les réfugiés et le premier réfugié syrien à rentrer au Parlement allemand avec les Verts, qui est sa formation politique. Il a annoncé donc qu'il se retirait parce qu'il y avait tellement eu d'insultes racistes et qu'il se retirait complètement de la vie politique, la vie publique, pardon, pour un certain temps. Il s'appelle Tarek Alaos, arrivé en septembre 2015 quand l'Allemagne a accueilli des centaines de milliers de réfugiés syriens fuyant la guerre qui ravagent ce pays. Je le cite, ma candidature a montré que nous avons besoin dans tous les partis, en politique et dans la société, de structures puissantes pour combattre le racisme structurel et venir en aide aux personnes touchées. Je sais pas s'il y en a qui écoutent au Québec, hein, on pourrait transférer ça. J'ai pas d'exemple d'attaque raciste qu'il y a eu, là, puis l'article en parlait pas, d'infomigrants,
c'est
pas
très... On peut facilement s'imaginer exactement à peu près à quoi ça ressemble, hein?
Oui, oui. Mais évidemment, tous les politiciens, même de l'extrême droite, ont dit que ça avait pas d'allure, puis bon, évidemment, là, c'est toujours la même rengaine. Monsieur, donc, Tarek Alaouès est un ancien étudiant en droit en Syrie qui s'est engagé dans l'aide humanitaire pour le Croissant-Rouge là-bas, a été ciblé par le régime et a donc fui depuis la Turquie via l'île grecque de Lesbos. Ça, ça nous dit quelque chose pour arriver justement par la route des Balkans en Allemagne. Vous dire que c'était quelqu'un de très impliqué, choqué par les conditions de vie qu'il découvre en arrivant en Allemagne. Il a cofondé une initiative plaidant en faveur de meilleures conditions de logement pour les migrants, migrantes et d'une plus grande participation de ces derniers dans les prises de décisions politiques. En 2018, il a créé l'organisation de sauvetage de migrants-mères Sibrouquet et en est devenu le porte-parole. Donc, en terminant, ben, pour pouvoir siéger au bout d'une stag, en cas d'élection, ce qui n'aura pas lieu maintenant, là, le Syrien aurait dû obtenir la nationalité allemande au plus tard le jour des élections, le 26 septembre. Mmh. Il est en démarche pour le faire. Et on rappelle que l'Allemagne a accueilli, ben, accueille la plus grande diaspora syrienne en Europe en 10 ans. 790 000 Syriens se sont installés dans le pays. Hein.
Donc, ce serait bien qu'il y ait une voix pour les représenter.
Ouais, c'est ça.
C'était ça son objectif. Aussi, ouais. C'était ça. Il disait, lui, la voix des réfugiés ou la voix des sans-voix. Donc, voilà. Marie-Ève, tu poursuis en Europe. Donc, avec, oui, là, dans les moins bonnes nouvelles,
oui, au Danemark,
ça sonne facho un peu,
oui,
Danemark
oui,
et Royaume-Uni.
Oui, là, au Danemark, la xénophobie prend des proportions carrément abyssales. Petit retour dans le temps. En 2018, OK, le gouvernement avait adopté la loi dite des ghettos, qui limite la part des non-occidentaux à 50 % dans les quartiers défavorisés de plus de 1000 habitants.
Ça, okay? C'est quelque chose, hein? Ouais.
Eh bien, la semaine dernière, OK, croyez-le ou non, le ministre danois de l'Intérieur a dévoilé un projet de réforme de la loi qui réduirait à 30 % la part des personnes d'origine non-occidentale dans les logements sociaux d'ici 10 ans. Les familles délogées de ces zones-là seraient relogées dans d'autres régions du pays, tu sais.
Bien sûr, ils vont être bien accueillis.
Oui. L'année passée, là, au commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies avait appelé Copenhague à mettre fin à ce système-là, principalement parce que le terme de non-occidental vise évidemment de manière disproportionnée les populations ethniques non-blanches et non-européennes du Danemark. Il y a d'ailleurs 3 procès qui sont en cours au Danemark pour contester la législation actuelle. Selon plusieurs, la désignation de ghetto et la discrimination qu'elle entraîne pourrait constituer une violation du droit au Danemark, mais aussi au niveau européen. La position du ministère danois de l'Intérieur et du Logement, lui, c'est que la catégorisation de non-occidentaux est conforme à Statistique Danemark, qui est l'institut là, de la statistique responsable, entre autres, du recensement de la population, selon lequel les pays dits occidentaux comprennent les pays de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, Andorre, Islande, bon, quelques pays blancs, Norvège, le Vatican, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais le ministère, OK, en déduit donc que tous les autres pays, ben, sont non-occidentaux et il soutient que la distinction, donc, entre pays occidentaux et non-occidentaux n'a rien à voir avec le système politique, la religion, l'économie ou la culture du pays.
OK. On continue à suivre ça. Là. On
suit selon... le ghetto comme idéologie.
Oui, c'est cela. Et puis même selon l'Université Copenhague, qui cite d'ailleurs elle aussi les chiffres de 2020 de Statistique Danemark, il y a seulement 5,3% des personnes immigrantes originaires de pays non occidentaux qui vivent dans des zones dites ghetto. Donc pour Özlem Cekik, qui est une ex-députée puis qui avait été la première musulmane issue de l'immigration à être élue au Parlement danois, ben la législation vise les personnes les plus marginalisés en général, parce que la proposition de loi n'a pas été seulement mise en place pour frapper les groupes musulmans ou les groupes de personnes migrantes, mais aussi la classe ouvrière qui vit dans la précarité. Il n'y a aucune date qui a été fixée là, pour le vote sur ce projet de loi-là, mais il y a des grosses chances qu'il soit adopté. Après tout, le Danemark pratique une des politiques les plus strictes d'Europe en matière d'immigration et d'intégration. Et
oui, avec un gouvernement social-démocrate au pouvoir. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Donc, évidemment, il n'y a pas juste le Danemark hein, qui durcit ses politiques en matière d'immigration. Je vous ai souvent parlé du Royaume-Uni. Eh bien là, il y a deux semaines, la ministre britannique de l'Intérieur a présenté à la Chambre des communes une réforme du système d'asile qui prévoit de ne plus accorder les mêmes droits aux personnes entrées légalement ou illégalement dans le pays. Si le gouvernement, lui, a qualifié la réforme de plus grande refonte du système d'asile au Royaume-Uni depuis des décennies, ben, les associations, elles, dénoncent un texte cruel et inhumain. Écoutez bien ça, la nouvelle réforme, OK, les personnes entrées illégalement en Angleterre et dont la demande d'asile aboutit vont recevoir un nouveau statut de protection qui va être temporaire et non plus un droit automatique à l'installation. Et donc, elles vont voir ce statut-là régulièrement réévalué pour être potentiellement expulsées. Leurs droits en matière de regroupement familial et leurs accès aux prestations sociales vont être limités. Puis quant aux personnes qui dont la demande, elle, est refusée, elles seront expulsées, je cite, « rapidement » du Royaume-Uni. À l'inverse, celles qui arrivent dans le pays par une voie de réinstallation dite légale et sûre, ils pourront s'installer au Royaume-Uni définitivement. L'affaire, c'est qu'actuellement, les réfugiés réinstallés, ils ont la permission de rester dans le pays pour une durée de 5 ans, après quoi ils doivent redemander à nouveau un titre de séjour qui est valable cette fois-là pour une durée indéterminée. Aussi, selon certains médias anglais, les ministres envisagent également que les demandeurs d'asile soient maintenus dans un pays étranger en attendant le traitement de leur dossier.
Classique.
Puis enfin, le gouvernement veut que les sanctions encourues par les personnes migrantes qui tentent d'entrer illégalement au pays soient renforcées, que les passeurs puissent écoper d'une peine de prison à perpétuité.
Bien sûr.
Bref, selon la Croix-Rouge, la réforme crée un système injuste à deux vitesses dans lequel le cas d'une personne et le soutien qu'elle reçoit sont jugés sur la façon dont elle entre dans le pays et non sur son besoin de protection, là,
ben
ce
oui.
qui est comme complètement
oui.
absurde. Puis
<C'est>
pour l'ONG Refugee Action, ben cette réforme-là représente la plus grande attaque contre le droit d'asile jamais vue au Royaume-Uni, rien de moins. C'est une époque formidable dans laquelle nous vivons.
Le Brexit, on voit qui l'a fait et qui le souhaitait. Hein?
Oui,
c'est la droite dure. Hein?
Voilà.
Ouais.
En tout cas, si on ne le savait pas avant,
Puis Simon, il y a quelques semaines, nous a parlé aussi, ou toi, aussi d'autres mesures qui rentraient pour, entre autres, les mineurs.
Oui.
Donc, c'était plus sévère.
Pour la réunification familiale, c'était rendu beaucoup plus compliqué sans le droit européen qui venait un peu encadrer tout ça.
Il fallait sauver de l'Europe, là, je te dis, hein, pour être indépendant. Donc, leçon pour d'autres. Donc, on va y aller avec quelques... Merci, Marie-Ève, pour ton deuxième bloc Europe.
C'est un plaisir.
Danemark, suivez ça, Angleterre aussi, et France aussi. Donc, on va y aller avec quelques notes de musique, et ensuite, je vous parle un suivi sur la Cour pénale internationale. Donc, toujours aux émissions, à l'émission des Apatrides Anonymes, un beau petit éducatif musical sympathique qui va nous introduire d'ailleurs à la toune dans quelques minutes de Tiki Tiki, dont on va parler tantôt. Ben, la CPI, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en lien avec une grosse nouvelle quand même, puis je me rends compte que c'est une grosse nouvelle dans le monde diplomatique, mais dans le monde géopolitique au niveau international, le fait que la Cour pénale internationale va pouvoir enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité dans les territoires occupés palestiniens, faits par Israël et accessoirement par des groupes armés aussi, style Hamas et compagnie. Mais ça brasse pas mal dans le monde ondes diplomatiques. Beaucoup d'experts parlent d'un changement du rapport de force là, entre Israël, Palestine et en tout cas les groupes ou les organisations qui appuient les Palestiniens et les pays, parce qu'on parle de pays qui appuient Israël. Donc, ça a l'air qu'Israël chie un peu dans ses culottes là depuis quelques semaines. Ils ont envoyé le président, qui est un espèce de président symbolique, c'est pas le premier ministre, ils ont envoyé le chef d'état-major aller rencontrer leurs homologues européens, le ministre des Affaires étrangères, la même chose d'Israël, pour essayer de leur dire de pas arrêter des responsables israéliens qui auraient des mandats d'arrêt éventuellement, parce que là, l'enjeu, c'est que des responsables politiques et aussi militaires peuvent avoir des mandats d'arrêt et la CPI est pas obligée de les rendre publics. Fait que Netanyahou fait une petite visite en Islande, oups, l'Islande qui a signé le statut de Rome, donc la CPI, est obligée de l'arrêter.
Puis en plus, son mandat vient d'être renouvelé à Netanyahou.
Moi, ça n'a pas rapport. De toute façon, qu'il soit élu ou pas, il peut être arrêté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un élu ou un militaire israélien qui fait une petite tournée personnelle ou politique ou publique peut se faire arrêter sans être averti.
Ah, OK.
Fait que là, il commence à trouver ça un peu moins drôle. Oui. Parce que le statut de Rome, donc, qui a donné la CPI, là, tous les pays européens l'ont signé. Ben, je ne sais pas si l'Angleterre va se retirer, peut-être. Là. Et plusieurs pays aussi du Sud, plusieurs pays du tiers-monde, des pays en développement. Évidemment, Israël, les États-Unis l'ont pas signé, Russie, Chine, etc. C'est les grosses puissances. D'ailleurs, au Conseil de sécurité, ça fait des frictions. Fait que là, techniquement, si vous voulez que je vous explique rapidement, les trois enquêtes qu'il va avoir, c'est sur les crimes de guerre pendant la guerre de Gaza en 2014, dont on a parlé souvent. Il y a eu des crimes des deux côtés. Il y a la répression féroce de la marche du retour de 2018. À tous les vendredis, il y avait des gens de Gaza qui allaient manifester au clôture, ils se faisaient tirer par des snipers. Il y a eu 200 morts.
Il y a encore du monde dans les hôpitaux. Hein,
Oui. On parle de plusieurs milliers de blessés, d'amputés. Et le troisième, c'est les crimes liés à la colonisation des territoires palestiniens occupés, comme le transfert de civils israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et à l'expulsion de civils palestiniens de leur village. Et d'ailleurs, depuis l'annonce que la CPI allait enquêter, Israël, Netanyahou, a décidé de suspendre l'expulsion de plusieurs villages en territoire palestinien.
Mais je pense que c'est la première fois depuis des années.
Il y avait eu à l'époque d'Obama un peu certains reculs parce que, c'était les négociations sur le processus de paix, mais là, il recule. Puis en plus, la CPI est sortie en disant que les transferts forcés de population civile, c'est un crime de guerre dans un territoire occupé.
Ben oui.
Fait que, tu sais, ça se joue un peu à ce niveau-là actuellement. L'apartheid israélien, qui n'est pas reconnu par beaucoup de pays, commence à faire son chemin à partir de cette enquête-là sur la colonisation des territoires palestiniens occupés. Et, il faut dire que c'est la longue suite de plein de résolutions de l'ONU, de jugements de cour en Europe qui condamnent la colonisation. Et le problème, là où Israël est vraiment sur la corde raide, c'est que pour les crimes dans la bande de Gaza contre la marche du retour, la CPI précise que si le pays lui-même enquête sur les crimes, elle n'a pas à le faire. Mais sur la colonisation, Israël reconnaît, se vante de coloniser, dit que c'est une politique officielle, donc qui enquête pas sur des crimes reliés à la colonisation. Fait que c'est là-dessus qu'ils se font actuellement attraper. Là, la situation fait que Israël essaie de convaincre beaucoup de pays de pas arrêter leurs ressortissants si jamais ils se font prendre, de contester évidemment la légitimité de la Cour pénale. On parle ici, évidemment, Netanyahou ressort que c'est de l'antisémitisme pur et dur contre Israël, qui est un pays démocratique versus des terroristes. Donc, mais quand même, quand j'ai su qu'il y avait eu des plans prévus d'évacuation de civils qui avaient été suspendus par Israël, là, on voit, fait que beaucoup d'experts que j'ai lu plusieurs textes pour un peu vous résumer ça, c'est que la question palestinienne va revenir à l'avant-plan, autant en Israël où a été évacué depuis quelques années, depuis qu'il n'y a plus de négociations, puis que Netanyahou est là, puis la colonisation full pin, les Palestiniens, on en parle presque plus en Israël. C'était pas un sujet d'ailleurs des dernières élections.
Et au niveau à l'international aussi.
À l'international, de moins en moins. Puis là, ça va revenir avec cet enjeu-là. Donc, le rapport de force bouge. C'est sûr que Israël se laissera pas faire dans sa logique actuelle tant que cette gang-là est là au pouvoir. Cette gang c'est des fachos. C'est l'extrême droite et la droite religieuse là en Israël. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. Puis j'ai hâte de voir comment le Canada va se positionner aussi. Les États-Unis, vous savez qu'ils ont levé les sanctions
contre la procureure,
entre autres.
Qui avait été mise par par Trump.
Exactement, Fatou Bensadou et ses collègues et ses employés, mais tout en disant qu'il refusait toujours que la CPI enquête à la fois sur les territoires palestiniens et sur les crimes de guerre des soldats américains en Afghanistan. Mais on voit quand même qu'il y a un jeu, là, ça bouge un peu à ce niveau-là. Et en terminant, peut-être dire qu'Israël, ben, pour punir, évidemment, les faciles à punir, ils ont interdit au ministre palestinien des Affaires étrangères de ressortir de la Cisjordanie. Ils ont enlevé son visa VIP, parce que eux qui décident, hein, c'est un ministre qui, dans son propre territoire, peut sortir ou pas. Fait que là, ils ont enlevé ça en représailles parce qu'ils revenaient d'une rencontre à la CPI. Donc, on voit la game, je vais suivre ça pour vous, la game politique, géopolitique, diplomatique, et on parle ici d'oppression, de racisme aussi à travers tout ça, de colonisation. Donc, voilà.
Faudrait que tu suives pour nous aussi toutes les poursuites pour corruption qui visent Netanyahou et ses proches, là. Ça en train de le rattraper aussi.
Oui, il y en a 3 ou 4 procès actuellement, mais il est quand même au pouvoir. C'est incroyable. Quelle démocratie. Donc, voilà. J'ai garoché plein de choses, mais allez voir, c'est vraiment un dossier à suivre. Il y a des bonnes analyses qui se font actuellement. On va y aller en musique, Marie-Ève. C'est une autre de tes suggestions.
Oui.
C'est un groupe, donc, montréalais, composé de 7 membres issus de plusieurs projets connus dans la scène locale. Power of First, j'avais oublié ça, Patrick Watson, Bougat, le fameux Gypsy Combi Orchestra, Dynamo Cléopatra, qui est un groupe, un duo assez flyé que j'ai déjà vu. C'était à l'origine un band en hommage au guitariste japonais Takeshi Terry Terochi, mais c'est devenu un band en soi. Un style surf rock psychédélique japonais des années 70, vous allez le reconnaître, mais modernisé avec des éléments de shoegaze, de post-rock et de noise. J'ai pas dit, il s'appelle Teke Teke. L'album s'appelle Sirushi, il sort en mai 2021. Ouais. On est vraiment dans l'actualité, on est d'avance. Hein? Et ça va être leur premier album complet.
Ouais.
Et tu voulais me tester au micro, évidemment, comment on dit le nom du groupe, pourquoi on dit ce nom, d'où ça vient. Donc, Marie-Ève, c'est une onomatopée du bruit d'un riff de guitare de rock surf des années 70, japonais ou pas. Et on le dit vite à voix haute.
Je pense qu'on va aller en musique. Là.
La pièce s'appelle Yuri Ni, le groupe. Comment?
Yuri Ni.
Le groupe. Tricky, la pièce Yoroni. Donc, l'album sort dans un mois et demi.
Ton japonais est excellent.
Merci. Donc, Simon, je te passe le micro tout de suite. Deuxième bloc sur l'Afrique, la Gambie et puis le Mozambique.
Et oui, après la Centrafrique, on s'en va, on se bouge. C'est grand, le continent africain quand même.
Il y a beaucoup
donc,
de pays.
Pour vous situer, on est sur la côte de l'océan Indien, plutôt vers le sud, en face de Madagascar, un très grand pays, le Mozambique. Tantôt, la Centrafrique, si on vous parlait d'un climat de violence quasi chronique, endémique, plein de groupes rebelles qui se foncent dans le tas entre eux et contre le gouvernement.
Mm-hmm.
Maintenant, au Mozambique, il y a des violences surtout liées à un groupe djihadiste, Al-Shabaab, qui ont provoqué le déplacement de plus de 670 000 personnes, pas tout récemment, là, mais dans les dernières années, donc 170 000 personnes. Là, il y a une attaque sans précédent revendiquée par le groupe dans la ville portuaire de Palma. Attaque surprise, super organisée sur trois fronts simultanés contre la population civile. On pense qu'on voulait déstabiliser la région parce qu'on y trouve vraiment tout juste à côté un méga projet gazier du groupe français Total.
Oh, les gentils de Total!
Ben oui, qui sont partout en Afrique et dans le monde pour pomper les ressources naturelles. Donc, plusieurs des personnes responsables du méga projet, ouvriers, employés, ingénieurs, des cadres, sont à Palma aussi, mélangés avec la population civile.
Mm-hmm.
La ville est tombée aux mains du groupe djihadiste après seulement 48 heures de combat. Puis l'armée gouvernementale a contre-attaqué et après deux semaines de siège, le gouvernement affirmait mardi dernier avoir repris le contrôle de la ville, mais évidemment des coûts humains assez considérables et causant les déplacements, tout ça en deux semaines, de 11 000 personnes
quand
au
même.
Moins. C'est sûr que c'est des chiffres estimés, c'est préliminaire, tout ça est assez confus. Total s'est retiré de la région, donc s'il faut...
Ils sont toujours au Myanmar.
Je vais laisser la France en suspens. Tout le personnel évacué, le projet de plusieurs milliards mis sur pause, donc le djihad au service de l'environnement qui le crut.
Contre les hydrocarbures!
Oui! Bref, on n'a aucune idée du nombre de morts, mais forcément, ça a considérablement aggravé la crise qui existait déjà dans la région. Des milliers de personnes ont marché vers les villes voisines ou vers la frontière avec la Tanzanie, qui est vraiment pas loin au nord. Certaines personnes sont allées se cacher dans les forêts environnantes. D'autres se sont dirigées vers les plages où elles sont montées à bord d'embarcations pour aller rejoindre d'autres villes côtières. Voyons, je...
Prends ton temps, Simon.
Maria a parlé de dyslexie tantôt. Je pense que c'est en train de m'affecter. Donc, pour aller rejoindre d'autres villes côtières à partir de la plage vers le sud du pays. Donc, ce qui est ironique dans cette situation, c'est que Palma est une ville qui servait de refuge contre les violences djihadistes dans la région. Et là, les gens se voient forcés de quitter leur refuge, de quitter Palma pour retourner vers les régions qui les ont vus fuir. Donc, c'est pas drôle. Il y a Human Rights Watch et d'autres organisations qui se disent prêtes à se mobiliser sur place pour porter assistance, mais c'est encore assez confus, assez dangereux. Les gens sont partis dans toutes les directions. Dans la majorité des cas, on ne sait même pas où ils sont rendus. On a perdu la trace de milliers d'entre eux.
Mm-hmm.
Donc, je parlais du 11 000 tantôt, ça peut bien être 20 000 aussi, on ne sait pas. Là. Je vais passer à la Gambie,
un
autre pays, parce qu'il n'y a pas de nouvelles plus fraîches que ça pour le Mozambique.
Pour le Mozambique.
Il va falloir en reparler
dans
les prochaines semaines. La Gambie, bon, vous savez, j'aime ça situer géographiquement.
Vas-y.
La Gambie, c'est une minuscule langue de terre complètement enclavée dans le Sénégal, avec accès à l'océan Atlantique par l'embouchure du fleuve Gambie. Il y a de la pression très forte actuellement pour traduire en justice l'ancien président, corrige ma prononciation s'il le faut, Yahya Jammeh.
Ça va.
Merci. Mise en cause pour les meurtres de 59 migrants qui venaient de 9 pays subsahariens différents. Parmi les 59 migrants, c'était un groupe qui était passé par les Canaries pour aboutir en Gambie. Ils visaient le Sénégal, mais comme la Gambie est à peu près au milieu de la côte sénégalaise, ils se sont ramassés en Gambie. Ça s'est passé en 2005. Les migrants cherchaient à joindre l'Europe et ont été arrêtés, détenus par les services de sécurité de l'ancien président, puis une bonne partie d'entre eux ont été amenés dans la forêt pour y être assassinés par les junglers, des paramilitaires sous les ordres directs de l'ancien président. Je vais répéter son nom, Yahya Jammeh.
Un chic type.
Oui, un gentleman, comme on dit dans le jargon. La pression seulement vient de part et d'autre, là, de Human Rights Watch, de Trial International, des familles des victimes et surtout du seul survivant de cette tuerie-là, le Ghanéen Martin Kieré, qui se bat depuis 15 ans pour obtenir justice. En pleine nuit, il avait réussi à sauter du pick-up durant le transport entre les cellules et l'endroit perdu en forêt où ont été exécutés ses comparses. Mm-hmm. Il a vu les corps fraîchement fusillés, là, avec traumatisme.
Il a tout vu, hein?
Il a tout vu. C'est vraiment un témoin clé, oculaire direct. L'ancien président, actuellement, est en exil en Guinée équatoriale depuis 2017 et fait l'objet, à peu près depuis ce temps-là, d'une commission Vérité et Réconciliation qui se penche sur les crimes de son régime qui a duré 22 ans. Les crimes qui incluent de la torture, des détentions arbitraires, des assassinats autres que ceux des 59 migrants, mm-hmm. Des disparitions, notamment des journalistes et des opposants au régime. Certains junglers, donc ces miliciens qui...
Ça garde rapprochés,
ont participé à la commission réconciliation. D'anciens ministres aussi, et reconnaissent en bonne partie ces crimes-là et l'implication personnelle du président. Donc, tout semble mûr actuellement pour des procédures judiciaires plus officielles contre Yahya Jammeh et ses proches collaborateurs. Ce qui est recueilli actuellement concorde parfaitement avec les enquêtes de Human Rights Watch et d'autres organisations. Donc, on appelle le régime gambien actuel et les pays d'où originaient les autres migrants et migrantes assassinés, parce qu'il y avait aussi des femmes, à entamer des démarches pénales. C'est du Ghana que venait le plus de migrants assassinés parmi le groupe de 59. Martin Kieré, le survivant de cette tuerie de mars, venait aussi du Ghana. Donc, c'est sur le gouvernement ghanéen que la pression est la plus forte actuellement pour qu'il fasse une demande d'extradition de l'ex-président, l'affreux. Ah, le micro de Marie était fermé, mais je lui donne la bonne réponse. Yahya Jammeh.
Ben merci, Simon.
Merci. Je sortirai de l'Afrique la prochaine fois pour aller vers le Yémen. C'est une des pires crises de l'histoire, je pense, puis il faudrait vraiment qu'on en parle bientôt, là.
Mais c'est bien de parler de l'Afrique aussi, dont on parle peu souvent. Donc, merci beaucoup, Simon. Je vous fais un court micro sur le racisme anti-asiatique et ensuite, on va passer... Simon nous revient pour l'agenda. Je veux juste souligner le fait que, depuis les attentats d'Atlanta, il y a quelques semaines, il y a eu beaucoup de manifs à Montréal, un peu partout en Amérique du Nord. Évidemment, tout ça date, ce racisme anti-asiatique dont on parle plus depuis le début de la crise de la pandémie mondiale, avec les déclarations entre autres de Donald Trump et compagnie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une espèce de réveil, on parle de Asian Lives Matter, on parle de différentes choses ici comme en Europe et aussi aux États-Unis. Et j'ai lu plusieurs articles où les Asiatiques eux-mêmes sont un peu tannés du stéréotype de minorité modèle, intégrée, docile, tu sais, qui dit pas un mot, puis qui finalement, en bout de ligne, est souvent méprisé quand même, tassé, et souvent stigmatisé. Souvent, on a beaucoup de préjugés sur les femmes asiatiques, entre autres, tout ça. Donc, il y a une espèce de réflexion qui se fait dans les divers milieux asiatiques, parce que c'est plusieurs communautés depuis quelque temps. Mais malheureusement, des attaques directes ou des actes haineux, ils continuent à en avoir. Je voulais vous rappeler que pas plus tard qu'il y a même pas deux semaines à Montréal, dans le métro, il y a une femme asiatique qui s'appelle Rebecca Nguyen, qui se dit habituée des insultes, menaces, références déplacée, qui a quand même été brassée dans le métro, en tout cas menacée et insultée par un tata, évidemment. Ça s'est passé dans le métro en plus, mais ce qui ressort beaucoup de ce qui m'a vraiment frappé, c'est que tous les gens autour d'elle ont ni réagi avant, pendant et après. Il y a personne qui est allé dire comment ça va, t'es-tu correct, ou qui est allé dire au monsieur, au tata de se fermer la gueule.
Ben, le confronter.
Ben, le confronter. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, tu sais, mais je veux dire, déjà montrer une présence dans le métro quand il y a beaucoup de monde. Et elle, ce qui ressort vraiment de son témoignage, c'est qu'elle s'est jamais sentie aussi seule de sa vie à ce moment-là dans le métro.
Moi, c'est ça qui me sidère le plus, les gens qui font juste rien, tu sais.
Oui, tout à fait. Oh, oui, mais juste qu'ils regardent même pas. Tu sais, elle a filmé le monsieur qui l'insultait, qui a imité un gun pour la menacer. Mm. Et finalement, ce qu'on a su après, c'est qu'un autre monsieur d'origine chinoise qui a porté plainte aussi contre ce même monsieur qui l'avait insulté plus tôt dans la journée. Et on a su aujourd'hui qu'il avait finalement été arrêté en fin de semaine dernière et qui est accusé d'harcèlement et de menace. Donc, c'est quand même assez particulier. Et vous dire aussi, je termine là-dessus, la même semaine à New York, il y a eu une attaque beaucoup plus violente au niveau physique. Une sexagénaire d'origine asiatique qui a été agressée par un monsieur sur la rue. La vidéo a circulé, tout le monde a capoté, le bonhomme a été arrêté finalement, mais ce qui ressort aussi des articles, c'est que plus que le fait que la madame a été hospitalisée et blessée, c'est que finalement, il y a deux hommes qui assistaient à la scène depuis l'intérieur de l'immeuble, parce que ça se passait sur la rue, qui ont rien fait et qui ont même fermé la porte d'entrée pour pas voir la situation et même pas aller porter assistance à la madame blessée à la fin, qui est quand même une sexagénaire. Donc, évidemment, New York est une grande ville avec beaucoup, on parle de plus d'un million d'habitants aux origines asiatiques diverses. Il y a une recrudescence des crimes contre les Asiatiques comme partout en Amérique du Nord. Mais vraiment, ces deux cas-là récents, mais tout en même temps, il y a un réveil, donc c'est une dynamique quand même assez intéressante. Mais vraiment, les gens qui non seulement ne confrontent pas, comme tu dis, Simon, mais ne regardent même pas ce qui se passe et ne vont même pas demander à la personne si elle est correcte. Après coup, un gros quoi?
On fait dur.
Donc, on y va avec quelques notes de musique et ensuite, Simon nous passe l'agenda. Donc, toujours avec Simon au micro, devant moi, on y va avec quelques suggestions de lecture, entre autres.
Ça. Ouais, donc c'est pas un agenda d'événements ou d'actions politiques, c'est vraiment de la littérature autochtone, un roman, un essai et un recueil de textes. En premier, le roman « Le chasseur au harpon » de Marcoutis Patsaouk, 50 ans après sa première parution, ce qui est considéré comme le premier roman inuit au Canada, on a enfin droit à une traduction directement de l'Inuktitut vers le français. Mm-hmm. C'est une co-traduction de Marc-Antoine Mailleux et Valérie Enituyuk. Ça avait d'abord été traduit en anglais, puis il y avait eu des traductions à partir de cette version anglaise vers d'autres langues, dont le français, traduction jugée ordinaire, disons, Waters. Quand même assez loin du texte original, avec des références, par exemple, au catholicisme qui n'existait même pas dans le texte original. Donc, très libre, disons, comme traduction. L'auteur Inuk Marcoutis Patsaouk est décédé en mars 2020. Il était aussi pilote d'avion. Il a longtemps milité pour qu'Ottawa reconnaisse ses torts dans le chapitre de Resolute Bay, une histoire de déplacement forcé de communautés inuites à partir de bonnes terres de chasse et de pêche vers des territoires beaucoup plus au nord, dans des endroits sombres et hostiles, comme l'auteur a lui-même vécu, alors que sa famille a été forcée de déménager dans cet endroit. Resolute Bay, c'est plus loin que le cercle polaire.
Ouais, c'est très, très loin. Ouais.
Donc voilà, traduction française qui a enfin de l'allure. Je ne l'ai pas eu, c'est dans ma liste, mais on ne peut pas dire que la littérature autochtone et inuite au Canada soit très enseignée ou diffusée. C'est Le chasseur au harpon de Marcoutis Patsaouk, disponible aux éditions Boréal.
À lire.
Un essai, plus aucun enfant autochtone arraché, deux points pour en finir avec le colonialisme médical canadien. L'urgentologue pédiatrique Samir Shaheen Hussein publie la version française de son premier essai dans lequel il parle des effets du racisme systémique sur les enfants dans le système de santé. Il avait été impliqué dans la campagne « Tiens ma main » en 2018 sur le fait que les enfants du Grand Nord, principalement Inuits, devaient prendre les avions ambulances sans leurs parents pour obtenir des soins plus au sud dans la province, ce qu'on appelle les évacuations en solitaire. Donc, campagne qui avait quand même permis de faire avancer les choses. L'auteur y va aussi de manière plus générale sur le colonialisme médical au Québec et dans tout ce qui touche le psychosocial, le médical, les hôpitaux. Il parle du génocide qu'on essaie souvent d'adoucir en parlant plutôt de génocide culturel. Lui, il parle vraiment de génocide point. Mm-hmm. Bref, j'ai seulement lu un compte-rendu. Je ferai un mauvais critique littéraire.
Écoute, c'est des suggestions.
C'est ça. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Je rappelle le titre « Plus aucun enfant autochtone arraché pour en finir avec le colonialisme médical canadien » du pédiatre Samir Shaheen Hussein. Dernière suggestion.
C'est publié chez Lux Éditeur. Hein?
Ah, ben oui, il faudrait peut-être le préciser aussi. Désolé pour les personnes. En tout cas, recueil de textes maintenant qui s'appelle D'horizon et d'estuaire entre mémoire et création autochtone. 16 personnalités artistiques ou qui travaillent dans le milieu culturel nous parlent de la place des créations autochtones dans la société québécoise. C'est un projet dirigé par Camille Larrivé et Léuli Eshraghi. C'est une recension du projet Tiotaké 2017-2019. Tiotaké qui est le nom Mohawk de Montréal. On retrouve donc 16 textes, dont le très important Enjeu dans les milieux culturels autochtones francophones au Québec de France Trépanier et Mylène Guy, qui font un retour historique sur la façon dont les institutions culturelles ont été établies au Québec et comment les artistes autochtones y étaient d'abord exclus pour tranquillement se tailler la petite place qu'ils occupent actuellement. Je dis petite parce que c'est encore fragmentaire, si on peut dire.
Oui.
Dans le livre, on démontre aussi à quel point le Québec est différent du reste du Canada, entre autres à cause du fait que les communautés autochtones ont été doublement colonisées par les Anglais et les Français.
Okay.
On parle aussi de la place prépondérante des femmes dans les milieux artistiques autochtones en expliquant que les femmes dans les communautés sont souvent celles qui partagent le savoir, qui possèdent les connaissances du travail traditionnel. Je rappelle le titre du recueil. D'horizon et d'estuaire entre mémoire et créations autochtones, projet mené par Camille Larrivé et Léouli Echragui.
Merci Simon. Il y a beaucoup de débats et d'enjeux de discussion sur la culture et les Autochtones ces temps-ci, donc ça en fait partie, c'est intéressant. Donc on le suggère.
On la voit un peu plus qu'avant, j'ai l'impression.
Oui, mais il y a beaucoup de débats sur sa place et tout, c'est vraiment intéressant dans une situation coloniale en plus. Mm-hmm. Donc on va aller avec quelques notes de musique et on fait un dernier micro pour vous saluer. Une dernière petite annonce culturelle, justement, une exposition sur la gastronomie Innu, ça a l'air drôle, hein, qui s'appelle Makushan. Makushan, pour plusieurs peuples des Premières Nations, ça veut dire la fête, le festin. Et c'est une expo de l'artiste ethnographe André Michel qui a fouillé dans sa réserve pour retrouver une quarantaine d'œuvres dessinées entre 1970 et 1987 et représentant des scènes de cueillette, de préparation du gibier, du poisson et de cuisine. Préparation du gibier et de poisson et des représentations de cuisine en forêt pour monter la première exposition de la Maison amérindienne qui va avoir lieu en 2020, qui a lieu en 2021, pardon. Et la Maison amérindienne, ça s'est situé à Saint-Hilaire, à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, et qui met de l'avant les cultures autochtones du Québec et du Canada. Donc, c'est une expo faite par un Français qui est allé des années 70-80, beaucoup sur la côte nord. Il s'est lié d'amitié avec les Innus, et lui, quand il parle de peinture ethnographique, il parle pas de photos ni de dessins interprétés, vraiment, tu sais, de la représentation telle quelle des activités. Donc, c'est vraiment imprégné et intégré avec des Innus. Et lui, ben, il prétend que c'est une époque qui disparaît rapidement et que si on veut qu'un peuple continue à survivre, il faut en parler. Donc, c'est son travail à lui qui date quand même de longtemps. Donc, ça a l'air qu'au niveau artistique, ça a une valeur, au niveau anthropologique aussi. Et je connais pas la Maison amérindienne de Saint-Hilaire. Je sais qu'ils ont été fermés plusieurs mois à cause de la pandémie. Ils réouvrent avec cette expo-là, qui d'ailleurs a lieu jusqu'au 2 mai, si ça vous intéresse pour aller voir. C'est sur la bouffe, mais je trouvais quand même que c'est un sujet le fun. À travers ça pour avoir accès à différentes réalités.
Ça peut être juste un angle d'approche qui permet d'appréhender tout ça.
Exactement. Puis on parle d'une quarantaine d'œufs, là, donc.
Mais quand on parle de bouffe aussi, on parle d'ingrédients et donc de territoire parce qu'il faut bien les prendre quelque part, ces ingrédients-là. Donc, pour moi, c'est aussi tout le lien au territoire qui parle à travers ça. Fait que ça peut être intéressant.
Donc, à voir. Puis on vous parlera peut-être de cette maison amérindienne de Saint-Hilaire dans les prochaines chroniques culturelles et agendas socioculturels.
Ben bon? Oui, ça, on en fera d'autres.
Donc, Makushan, l'exposition jusqu'au 2 mai. On va vous laisser avec...
T'avais pas un autre événement?
Écoute, je peux le garder pour la semaine prochaine.
Okay.
Ben oui. J'aime mieux vous saluer comme il faut. vous dire qu'on va être de retour le 22 avril 2021. On sait pas si ça va être à 18h, 18h30, là, parce qu'il y a une histoire de couvre-feu, on en parlera pas trop, là, qui
probablement
revient.
Probablement qu'on va revenir à 18h.
Ouais. Je préfère pas en parler.
C'est ça. On va se défouler tantôt. pendant qu'on, jusqu'à 21h30.
Donner des coups de pied dans les poubelles.
C'est ça. À l'UQAM. Donc, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Je remercie Simon. Évidemment.
Ben, je te remercie toi aussi, Mathieu, pour cette animation.
Ça fait plaisir. Marie-Ève?
Oui.
Oui. OK, oui.
J'acquiesce. Merci à vous.
Beaucoup de très bons contenus, beaucoup d'informations. On avait beaucoup de stock parce que on n'a pas fait d'émission il y a deux
c'est
semaines.
C'est ça, on avait pris une pause.
Fait que c'est pour ça qu'on était serré un peu, mais dans deux semaines, il y aura une suite à tout ça. On va finir avec une pièce, je le souligne, qui est dans le palmarès de Choc, dans le palmarès anglophone. Le groupe s'appelle Mush, M-U-S-H. Mm-hmm. C'est la pièce Line Discontinued, qui est le titre de l'album qui est sorti donc en février dernier, il y a un mois à peu près. C'est sur l'étiquette Memphis Industry. C'est leur deuxième album à ce trio de Leeds en Angleterre. On est dans le post-rock, post-punk, indie, un peu, je dirais. Donc, comme on vous en fait jouer régulièrement, puis comme il y a vraiment une production britannique ces temps-ci assez incroyable là-dessus, là, pour ceux et celles qui écoutent les émissions spécialisées, c'est quelque chose. Donc, je répète, c'est une pièce du palmarès de Choc anglophone. Et, je vous remercie vraiment de votre contribution ce soir, Marie-Ève et Simon.
Merci.
Afrique et Europe, des très bons contenus. Et, je salue tous les auditeurs et auditrices et on se reparle donc, ça se passe le 22 avril. En attendant, notre page d'émission sur le site de Choc pour les émissions en balado et les émissions en direct pour les prochaines. Merci.
Bonne soirée.
Bonsoir.